Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Nico Kalambay.
Goma et Rutshuru seront isolés à partir de ce mercredi. Telle est la décision du gouverneur de la province du Nord Kivu. Décision prise après l'annonce des 7 nouveaux cas de contamination au coronavirus. Nous irons également à Lubero où une dizaine des groupes armés décident de mettre fin aux hostilités dans leur zone de contrôle, mais ils conditionnent leur désarmement par la présence de la MONUSCO pour la destruction des armes, munitions et effets militaires. Covid-19, nous en parlons dans ce journal avec notre invité qui est membre du Comité national de coordination, de préparation et de riposte à l'épidémie de la maladie à coronavirus. Avec le professeur Jean-Marie Kayembe, nous reviendrons sur tous les sujets d'actualité sur la Covid-19. Bienvenue à tous. Au Nord Kivu, le gouverneur de province vient d'annoncer l'isolement de la ville de Goma et du territoire de Rutshuru à partir de mercredi 20 mai. Une décision prise après l'enregistrement des 7 nouveaux cas de Covid-19 en province. Des cas qui sont tous liés au récent cas de la maladie venu de la Tanzanie le 1er mai dernier. Il s'agit des premières contaminations locales enregistrées en province qui a désormais 15 cas confirmés. Les explications avec Rosalie Zawadi.
Au-delà de l'isolement, l'autorité provinciale vient d'instaurer les ports obligatoires du masque en public. La circulation à Goma est aussi limitée jusqu'à 20 heures. Il est plus que jamais utile de respecter les mesures barrières, car la province n'a jamais été autant exposée, a dit Carline Zanzuka Civita.
Parce qu'en fait, le précédent cas, c'était des cas importés et nous étions à même de tracer les personnes contacts. Pour ces cas précis, on a eu des contacts à domicile. Ces gens ont eu aussi des contacts dans les églises parce que on m'a informé qu'il y a des églises qui sont en train d'organiser des cultes à moins de 20 personnes. Dans des deuils, une seule personne a été en contact avec plus de 48 personnes. Il y a quand même des inquiétudes à ce niveau-là parce que si une seule personne peut avoir plus de 48 personnes de contact, ça veut dire que le risque est grand.
Carline Zanzuka Civita annonce aussi la fermeture du trafic avec les provinces voisines ainsi que des amendes pour les personnes qui ne respecteront pas les mesures édictées. Il compte sur la responsabilité de tout un chacun pour limiter la propagation des Covid-19, la capacité de la province étant limitée pour gérer un certain nombre de malades de la pandémie. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
L'équipe de riposte contre le coronavirus en RDC rapporte ce lundi 18 mai 91 nouveaux cas de la maladie, dont 89 enregistrés à Kinshasa, 2 dans le Haut-Katanga. Le cumul passe désormais à 1629 cas confirmés. Pour le lundi 18, nouvelles personnes ont été déclarées guéries, ce qui porte le total des vainqueurs à 990. En revanche, aucun nouveau décès n'a été signalé. 61 est le nombre total des décès jusqu'ici. Le bulletin de l'équipe de riposte indique également que 508 cas suspects sont en cours d'investigation, 1065 patients en bonne évolution. 7 des 26 provinces du pays sont touchées par cette pandémie déclarée en République démocratique du Congo, vous vous en souvenez, le 10 mars dernier. Il s'agit de Kinshasa qui demeure l'épicentre de cette pandémie au pays, de l'Ituri, du Kwilu, du Haut-Katanga, du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Congo central. Nord Kivu, 12 groupes armés actifs dans le territoire de Lubero viennent de déclarer l'arrêt immédiat des hostilités dans toutes les zones sous leur contrôle. Dans une déclaration publiée ce lundi, ces groupes armés décident du début du mouvement de leurs combattants vers les centres de désarmement à partir de la semaine prochaine. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Les groupes armés signataires de cette déclaration sont IPDI, RML, APRC, PRM, PRMC, Léopard RC, PRC, FPPAP, CBB, Triple Force, Corps du Christ et FILC. Ils disent avoir à leur disposition un effectif de 2550 combattants. Dans cette déclaration, ces groupes armés disent qu'à partir de la semaine prochaine, ces combattants vont débuter leur mouvement vers les centres de désarmement à Kimbulu, Nziapanda, dans les Lubero. Mais ils demandent que leur désarmement s'efface en présence de la MONUSCO pour la destruction des armes, munitions et effets militaires, en fait de mettre fin à la circulation des armes disent-ils. Ils réclament aussi la libération de leurs combattants qui se trouvent dans plusieurs prisons de la région et la cessation des poursuites judiciaires contre les signataires de cette déclaration pour encourager la reddition des combattants. L'administrateur du territoire de Lubero dit pour sa part avoir réussi cette déclaration, mais n'en est pour l'instant fait aucun commentaire. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Georgina Yandawa est l'une des rescapées de l'attaque de la Codeco à Licéi, un village situé à environ 55 km au nord de Bounia, dans le secteur de Banyalikilo, en territoire de Djougou. Il y a 3 semaines, cette femme à la cinquantaine révolue affirme avoir perdu 12 membres de sa famille ce jour-là, dont son époux, ses enfants et plusieurs biens. Il lui a fallu 3 jours de marche pour arriver au site des déplacés de l'ISP à Bounia. Martial Kizebia Mungu l'a rencontré, encore bouleversé par le calvaire qu'elle a vécu.
Nous sommes devant la salle 2, dénommée 0 au site de déplacés de l'ISP. Georgina Nyadawa, habillée en pagne et d'un t-shirt, visage abattu et marqué par le désespoir, cette femme garde un très mauvais souvenir de l'attaque de son village, Licéi, par des assaillants de la Codeco. Ce jour-là, en pleine nuit, ces rebelles ont tué 12 personnes, membres de la famille de Georgina Nyadawa.
Moi, j'ai perdu 12 personnes. Mon époux aussi est parti. Les avants aussi sont partis. Je suis resté. C'est tout simple.
Après ces drames, dans la même nuit, elle a pris la direction du Bounia pour y trouver refuge. Georgina Nyadawa a dû être troublée par ce qu'elle a vécu.
Comme moi aussi, je suis troublée.
Bien qu'elle y trouve un peu de sécurité, n'est pas non plus un havre de paix. Les conditions de vie dans ces sites restent en effet très difficiles, comme elle le confirme.
Pour manger, nous souffrons. Puis, il faut aller à la ville pour chercher ce qui est déjà pourri.
Depuis le début des atrocités dans les territoires de Djougou et Magui, on estime à plusieurs centaines le nombre de personnes ayant perdu leur vie à cause de miliciens de la Codeco et plus d'un million de nombre de personnes déplacées de leur milliers d'origine. Bounia, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Direction les hauts plateaux du territoire de Fizi au sud Kivu, où le commandant secteur opérationnel sud Kivu, le général de brigade Gabi Boschouané, demande aux notables et aux autres leaders de Minembwe de sensibiliser davantage les jeunes afin qu'ils évitent les provocations entre communautés. Cet appel fait suite aux provocations réciproques liées au vol des bétails signalés depuis vendredi dernier entre les groupes armés locaux Twinganeo et Maïmaï. Ces groupes sont soutenus par les communautés locales en conflit, déplore le porte-parole des FARDC dans la région. Le capitaine Dieudonné Kasereka dans un communiqué publié ce lundi. Fiston Goma.
Selon l'armée, tout a commencé vendredi lorsque des miliciens du groupe Tuguaneo sont allés voler les vaches au village de Kachecha au nord de Minembwe, des vaches appartenant aux membres d'une communauté locale en conflit. Le lendemain, les FARDC ont réussi à récupérer ces vaches volées. Mais pendant que ces dernières étaient en route pour être remises à leurs propriétaires, les miliciens Tuguaneo sont encore intervenus pour les disperser. Les FARDC déplorent la complicité des leaders et notables des Kawira dans la manipulation des miliciens Tuguaneo. Du côté du bourgmestre de la commune de Minembwe, l'ordre aux miliciens Tuguaneo a été donné par les membres du conseil local de sécurité, Gadi Mukiza.
Nous avons envoyé les Tuguaneo, nous, avec le commandant. Nous leur avons demandé d'aller identifier ceux qui les possèdent actuellement, d'identifier les propriétaires de ces vaches. Si c'est appartient aux Bafoulerons, qu'on nous les amène et puis on va les donner aux Bafoulerons. Si ça appartient aux Banyamulenge, c'est la même chose, nous allons donner à ce Mounyamulenge-là qui avait été victime de vol. Vers le soir, on aura la réponse.
Cette autorité civile locale estime à 100 000 vaches pillées depuis quelques mois et qui se retrouvera entre les mains de Maïmaï dans les 4 secteurs du territoire de Fizi et Tombwe. Douvira Fistongo Mamayabala, Radio Okapi.
À Butembo, les activités socio-économiques ont tourné au ralenti le lundi. À la base, les manifestations spontanées suite à la mort par balle de Benjamin Kabuyaya, un chauffeur de taxi-moto dans la nuit de samedi à dimanche. La victime, membre de l'association des taxi-motos et voitures, a été inhumée ce même lundi à Boutoué, un village situé au nord-ouest de Butembo, en chefferie de Bachou, dans le territoire de Beni. Craignant des éventuels actes de vandalisme, les tenanciers des boutiques et magasins ont fermé leurs portes le long du boulevard. Les détails avec Florida Carambo.
Dans la avant-midi, des barricades ont été placées sur plusieurs routes dans la partie nord-est et sud de la ville pour bloquer les passages aux engins roulants. Dans la partie nord-est, par exemple, cette situation a été observée depuis le dimanche où les défenses seraient domiciliées. Les membres du groupe de pression Véranda Mutsanga, qui sont accusés d'être auteurs de ces barricades, auraient d'ailleurs appelé à une journée ville morte pour protester contre cet assassinat. Certains habitants déplorent le fait que ce groupe de pression monnayait les passages dans son bastion à Mutsanga ce lundi matin. Cette accusation a été rejetée en bloc par Shafi Moussitou, l'un des cadres du groupe de pression pointé du doigt. Selon lui, ces barricades étaient plutôt placées par des motards près de leurs parkings respectifs. En début d'après-midi, le boulevard Joseph Kabila a été barricadé au niveau du rond-point VGH. Plusieurs conducteurs ont fait des va-et-vient sur la chaussée en grande vitesse et certains avec des branches d'arbres attachées sur leurs motos sous le rythme des klaxons. La police et l'armée ont dû intervenir pour disperser les manifestants. Mumbere Misisa Jackson, président de l'association de taxis, motos et voitures, ATAMOF, parle d'infiltration des taximens par des inconnus qui sont à la base de cette situation. Pour sa part, le maire de Butembo appelle la population au calme. Maître Sylvain Kanyamanda dit que les enquêtes sont en cours afin de dénicher les auteurs de cet assassinat. Butembo, Florida Kaambo. Radio Capi.
Et puis au moins près de 500 personnes sont sans abri au village Bendela dans le territoire de Koutou, province de Maïndombé. C'est à la suite des inondations des eaux de la rivière Kassai qui ont envahi plusieurs maisons. Les sinistrés surpris par cette catastrophe naturelle demandent l'aide des autorités. Des précisions avec Irène Mboma.
Selon les sources locales, plus de 53 maisons d'habitation se sont écroulées au village Bendela, rendant ainsi près de 500 personnes ici des 123 ménages de sans-abri. C'est la suite au débordement des eaux de la rivière Kassai qui ont inondé ces maisons. Certains sinistrés ont choisi des salles de classe ainsi que des églises de la place comme lieu de refuge. D'autres, par contre, passent carrément la nuit à la belle étoile, vivant ainsi dans des conditions inhumaines. Ne sachant plus à quel saint se vouer, ces victimes plaident pour une assistance humanitaire urgente des autorités compétentes. C'est notre première fois de vivre pareil événement. Si c'est une punition de Dieu, nous ne savons pas. Voyez par vous-même. De cette façon, comment ferons-nous? Nous demandons au gouvernement de nous aider. Nous sommes en insécurité. Plusieurs maisons se sont écoulées. Une grave inondation. Ça demande du ciment pour que nous construisions des fondations solides. Nous passons la nuit à la belle étoile avec les enfants. Notez qu'aucune perte en vie humaine n'est signalée jusque-là. Bandundouville, Irène Mboma, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un mandat d'arrêt français pourrait être émis à l'encontre de Rokia Traoré, arrêté en France le 10 mars 2020. La chanteuse malienne était placée sous contrôle judiciaire pour n'avoir pas respecté un jugement rendu en 2019 qui exigeait qu'elle remette sa fille de 5 ans à son père belge. Elle attendait sa remise à la Belgique, retardée en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Selon la Cour d'appel de Paris, la chanteuse ne se serait pas rendue au commissariat le 15 mai comme son contrôle judiciaire l'y obligeait pourtant chaque semaine. Cela fait 2 ans que l'ex-président comorien Ahmad Abdallah Sambi est détenu chez lui dans sa résidence au nord de la capitale Moroni. Sa famille et son avocat dénoncent une détention arbitraire. La période légale de détention provisoire est arrivée à son terme il y a plus d'un an, précise son avocat, sans que l'ex-président ait été jugé.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui est le professeur Jean-Marie Kayembe, pneumologue et membre du Comité national de coordination, de préparation et de riposte à l'épidémie de la maladie à coronavirus en RDC. Il est chargé de la prise en charge dans cette structure. Avec Blaise Chindani, ils s'entretiennent sur toutes les questions d'actualité concernant la Covid-19 en République démocratique du Congo.
Professeur Jean-Marie Kayembe, bonjour.
Bonjour.
L'INRB est à ce jour l'unique structure qui effectue les tests de dépistage au coronavirus en RDC. À quelles conditions l'INRB peut-il dépister une personne?
L'INRB organise les examens de laboratoire de biologie moléculaire par PCR afin de déterminer la positivité ou négativité d'un échantillon. Mais ce n'est pas l'INRB de recruter les patients qui doivent être testés. Ceux qui le sont via des structures médicales parce que la pathologie a quelques symptômes qui conduisent les gens à consulter les professionnels de santé. Il y a donc les structures médicales qui font appel aux préleveurs. Il y en a qui sont sur place. L'exemple des cliniques universitaires, l'exemple de la clinique Ngaliema ou d'autres qui sollicitent de l'INRB l'envoi des préleveurs pour analyser tout cela. Mais nous avons, avec l'approche zonale, responsabilisé les médecins chefs de zone qui, lorsqu'ils sont alertés par les cellules d'épidémiologie et de surveillance, peuvent également, autour des cas positifs éventuellement, prélever et acheminer les échantillons pour leur analyse à l'INRP. Voilà le circuit emprunté à l'heure actuelle pour les examens.
Une personne d'apparence saine qui ne présente aucun symptôme du coronavirus peut-il passer un test de dépistage à l'INRB?
Comprenez qu'aisément, cela devrait se passer dans des conditions où l'on dispose de manière infinie de tests éventuellement. Ce qui n'est même pas l'occasion dans les pays développés comme la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Vous entendez qu'en France, à l'heure actuelle, ils se plaignent déjà de ne pas avoir suffisamment de tests. On en aurait des millions que l'on dépisterait tout le monde, même sur base du volontariat. À l'heure actuelle, la sélection se fait soit autour des cas, lorsqu'on a un cas identifié et qu'il a autour de lui des contacts à haut risque dans une sphère comme celle-là, faisant suite à la surveillance épidémiologique, on peut procéder à des tests. Ou alors, des sujets qui présentent certains facteurs évidents de risque, là, on peut procéder à des tests de confirmation. Mais sans symptômes, vous présentez chez mon ami Placide Mbala pour vous faire tester, non, ce n'est pas encore tout à fait dans nos cordes et dans la politique actuelle du pays.
À combien alors faut-il payer pour passer un test de dépistage au coronavirus à l'INRB si la personne ne présente aucun symptôme et qu'il veut se faire dépister par précaution?
Ben, je viens déjà de vous dire que se faire dépister par précaution, comme ça, sans argument, sans symptôme aucun, ce n'est vraiment pas la procédure ni le chemin à emprunter. Mais c'est la première fois que j'entends dire qu'il faut payer une quelconque somme d'argent pour cela. Non. Déjà, l'État congolais prend en charge le traitement des patients. Mais cette prise en charge, elle commence déjà par le diagnostic. L'INRB n'exige pas du tout de l'argent pour la réalisation des tests. Maintenant, s'il y a quelques aventuriers qui recrutent sans savoir comment ils le font, probablement que ce sont des bâtisseurs d'illusions qu'il faudrait tout simplement et très rapidement mettre hors d'état de nuire.
À ce jour, la RDC réalise quelques centaines de tests quotidiens de dépistage du coronavirus contre 1 000 000 de tests quotidiens dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi y a-t-il si peu de tests en RDC, professeur?
Je voudrais d'abord commencer par dire que la RDC est un sous-continent avec, vous savez, à peu près 80, si pas plus, millions d'habitants. Oui, jusqu'à en ce moment, les tests adéquats, c'est des tests de biologie moléculaire. Le pays n'est pas particulièrement gâté en investissement dans ce type d'exploration. Non seulement le matériel d'examen n'est pas répandu dans tout le pays, les intrants ont un coût, même si nous sommes en cela appuyés par nos différents partenaires, mais il faut aussi une formation du personnel. La biologie moléculaire est une technique pas très vieille dans notre pays, mais cela suppose qu'il y ait aussi des acteurs formés pour d'abord extraire les acides nucléiques et ensuite procéder à leur analyse. Quand cela ne tienne, il y a à l'heure actuelle une véritable et réelle volonté de multiplier les centres d'exploration d'acides nucléaires de cette manière. Mais si nous arrivions à utiliser d'autres techniques moléculaires, comme celle du Gene Expert, nous pourrons alors utiliser la plupart d'appareils dans quasi tous les programmes de traitement de la tuberculose à travers notre pays. Il y a des laboratoires de référence dans toutes les provinces qui utilisent déjà la technique du Gene Expert. Il nous suffit d'avoir des intrants particuliers de Gene Expert, c'est aussi une analyse moléculaire. Ceci pourra certainement améliorer et augmenter nos possibilités de diagnostic. Cela est tout à fait dans le programme et ce, dans les jours ou semaines à venir.
Professeur Jean-Marie Kayembe, merci beaucoup.
Merci bien.
Fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Axel Ngocho était à la supervision, Alain Irunga à la coordination, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Je me nomme Nico Kalambay.